La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui la conseillère Laurence Lequellec
et la conseillère référendaire Géraldine Métral.
Bonjour Laurence.
Bonjour Géraldine. Ce mois-ci, le podcast sur la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation est thématique. Il porte sur le droit à congé payé du salarié et pour en parler, nous recevons Philippe Florès, président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Le droit à congé payé, voilà une question sensible. Depuis le dernier podcast thématique numéro 22 du mois de décembre 2023 que nous avions consacré au sujet, l'actualité a été fournie.
Mais d'abord, rappelons quelques principes.
Le droit à congé payé est posé par l'article L3141-1 du Code du travail et l'article L3141-3 précise les conditions de son acquisition. Tout salarié a un droit à congé payé à la charge de l'employeur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. L'employeur est débiteur de l'obligation au titre des congés payés, ce qui veut dire qu'il lui incombe de démontrer qu'il a mis le salarié en mesure de les prendre.
Il faut aussi rappeler, puisque le droit à congé payé résulte de règles du droit de l'Union européenne, qu'il est consacré par l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que « tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi qu'à une période annuelle de congé payé ».
Et le droit fondamental au congé payé est concrétisé par l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003. Cet article prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins 4 semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et ou pratiques nationales. La période minimale de congé annuel payé ne peut pas être remplacée par une indemnité financière.
Le droit au congé payé annuel constitue ainsi un principe essentiel du droit social de l'Union.
Lors de notre précédent podcast, nous étions revenus sur l'histoire de ce droit dont l'acquisition a été conditionnée, en droit interne, à la réalisation par le salarié d'un travail effectif. Et nous étions revenus sur la confrontation ayant eu lieu entre notre droit interne et le droit de l'Union européenne qui, premièrement, attache le droit à congé payé non à la réalisation d'un travail effectif, mais à la qualité de travailleur. Deuxièmement, ne distingue pas entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé maladie et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de la période de référence. Et troisièmement, conçoit ce droit à congé payé selon une double finalité, de repos d'une part, de détente et de loisirs d'autre part.
Nous nous souvenons de cette confrontation entre droit interne et droit de l'Union qui a donné lieu à d'importants arrêts du 13 septembre 2023, commentés dans notre précédent podcast.
Certainement. Du fait de leur médiatisation, les arrêts rendus par la Cour de cassation ont rendu visible la non-conformité du droit interne avec le droit de l'Union, sur laquelle elle avait alerté à plusieurs reprises et que la Cour de justice avait elle-même relevé. Rappelons que, dans un premier arrêt, la Cour de cassation a, par application du droit européen, laissé inappliquer les dispositions de l'article L3141-5 du Code du travail, limitant à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat en cas d'arrêt après accident ou maladie professionnelle, pendant lesquels le salarié peut acquérir des droits à congés payés, alors qu'il résulte des dispositions supranationales que les périodes au cours desquelles le salarié est placé en arrêt maladie ouvrent droit à congés payés pour la totalité de leur durée.
Et dans un second arrêt, la Cour de cassation a, toujours en application du droit européen, écarté partiellement les dispositions de l'article L3141-3 du Code du travail afin de permettre à un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle d'acquérir des droits à congés payés pendant cette période d'arrêt de travail. En écartant la partie des dispositions non conformes aux droits de l'Union, la Cour de cassation ne réglait cependant pas tout. Tenant la gomme et non le crayon, elle ne pouvait elle-même combler les vides laissés. À ce titre, on peut dire que les arrêts du 13 septembre 2023 ont entraîné une réaction en chaîne.
Ces arrêts ont, comme annoncé, induit d'importants changements en droit interne. Et c'est sur ceux-ci que nous allons faire un premier focus.
Le plus évident d'entre eux est la modification législative qui a suivi.
Intervenue après une décision du 8 février 2024, rendue par le Conseil constitutionnel sur saisine de la Chambre sociale de la Cour de cassation, précisant la marge de manœuvre dont bénéficiait le législateur au regard des dispositions constitutionnelles applicables, la loi du 22 avril 2024 a modifié le droit interne des congés payés pour le rendre conforme au droit de l'Union.
Cette loi a prévu, en résumé, que pendant l'arrêt maladie, le salarié en arrêt de travail pour cause professionnelle acquérait 5 semaines de congés payés par an et que le salarié en arrêt de travail pour cause non professionnelle en acquérait 4.
La mise en conformité du droit interne au droit de l'Union s'est donc faite sans surtransposition du droit de l'Union en matière d'arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. En effet, les droits des salariés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle sont limités aux 4 semaines de congés payés issus du droit de l'Union et n'ont pas été étendus à la 5e semaine prévue par notre droit interne. Dès lors qu'il existait un retard de transposition, les dispositions légales présentent un caractère rétroactif. Mais la rétroactivité ne concerne pas les dispositions relatives aux arrêts de travail pour maladies d'origine professionnelle.
Les arrêts du 13 septembre 2023 ont entraîné une modification législative. Ce n'est pas anodin.
Et plus de 2 ans après ces arrêts, la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi qui, au travers d'une question de procédure, l'inviter à se prononcer sur leur portée.
Il s'agit d'un arrêt du 11 février 2026. Peux-tu nous expliquer le contexte ?
Bien entendu, Laurence. Je vais revenir rapidement sur le cadre procédural dans lequel s'inscrivait cette affaire avant de donner la parole à notre invité afin qu'il nous donne des explications de fond. Sur le plan procédural, l'article 910.4 du Code de procédure civile, devenu l'article 915.2 du même code, consacre un principe de concentration temporelle des prétentions dans les premières conclusions d'appel. Ce principe impose aux parties de présenter l'ensemble de leurs demandes dans ces premières conclusions, à défaut de quoi les prétentions formées ultérieurement sont irrecevables. Il existe toutefois plusieurs exceptions à ce principe. L'une d'entre elles et que les prétentions destinées à faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement aux premières conclusions sont recevables.
Donc, s'il y a une évolution du litige postérieurement aux premières conclusions d'appel, les parties peuvent former de nouvelles prétentions en lien avec cette évolution.
C'est tout à fait cela, Laurence. Et pour revenir à notre sujet des congés payés, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur la question de savoir si la décision du 13 septembre 2023, rendue en matière d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, constituait une modification de jurisprudence marquant une évolution du litige et une circonstance de droit née postérieurement aux premières conclusions d'appel déposées par la salariée. En d'autres termes, cette salariée était-elle recevable a formulé postérieurement à ses premières conclusions, sur le fondement de cette jurisprudence, une prétention nouvelle tendant au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congé payé pendant la période d'arrêt de travail pour maladie. La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question. et je cède la parole au président Philippe Florès pour qu'il nous en expose les raisons.
Oui, il faut rappeler que notre système juridique n'est pas un système dualiste, mais un système moniste. Cela signifie non seulement que le droit de l'Union européenne prime sur le droit interne, mais aussi, dans certaines hypothèses, que le droit de l'Union est directement intégré au droit interne. Rappelons que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a donné force juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 31, paragraphe 2 de cette charte, qui énonce que tout travailleur a droit à une période annuelle de congé payé, avait vocation à être appliqué dans toutes les situations régies par le droit de l'Union et notamment dans les litiges opposant deux particuliers. Cela fait de ce droit à congé payé du droit intégré.
Donc, on peut dire que la décision rendue par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 a été induite par la Cour de justice.
Oui, l'arrêt du 13 septembre 2023 est justifié par des règles fixées depuis de nombreuses années par la Cour de justice. Mais surtout, en reconnaissant l'effet direct horizontal de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte, dans un litige opposant directement le bénéficiaire du droit à congé payé à un employeur, dans les arrêts Bauer et Villemerotte du 6 novembre 2018, la Cour de justice a imposé au juge national de laisser inappliquer la norme juridique interne non conforme. Ce sont ces arrêts du 6 novembre 2018, et non l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, qui ont créé un fait juridique nouveau. À compter de ceci, les parties disposaient des éléments juridiques leur permettant de présenter une demande au titre des congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie. En effet, la règle issue du droit de l'Union était applicable, même si la question n'a été soumise à la Cour de cassation que près de 5 ans plus tard.
En d'autres termes, la salariée ne pouvait se prévaloir de l'arrêt du 13 septembre 2023 pour soutenir qu'existait une évolution du litige postérieurement au dépôt de ses premières conclusions d'appel. Son droit à congé payé existait avant cet arrêt. Il résultait de la primauté du droit de l'Union européenne.
Tout à fait. Et sur une question de droit européen, qui doit s'appliquer de façon uniforme sur le territoire de l'Union européenne, seule la Cour de justice peut, à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de sécurité juridique, accorder une suspension provisoire de l'effet d'éviction exercé par une règle du droit de l'Union à l'égard du droit national contraire à celle-ci. Lorsqu'il laisse inappliquer les dispositions de droit interne contraires à la charte, le juge national n'a pas la possibilité de moduler les dispositions subsistantes. Le dispositif étant d'effet direct, il s'est imposé aux employeurs qui ont dû l'appliquer sans délai. Il s'est imposé de la même manière aux salariés.
On le voit, les arrêts rendus le 13 septembre 2023 ont eu plusieurs effets rebonds. Mais face à eux, la Cour de cassation a placé salariés et employeurs sur un pied d'égalité.
Mais revenons sur l'application de la loi du 22 avril 2024. Le législateur a institué un dispositif de perte des droits à congés payés acquis et non exercés en raison de l'arrêt de travail au terme d'un délai de report de 15 mois.
Oui, Laurence, et la question s'est posée à l'occasion d'un pourvoi de savoir si les congés payés reportés pouvaient à nouveau être reportés si le salarié qui avait repris le travail se trouvait empêché de les prendre en raison d'un nouvel arrêt de travail.
En effet, dans un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation a jugé que lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l'employeur ne peut invoquer l'extinction des droits à congés payés au terme de ce délai qu'à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Plus précisément, quel est l'apport de cet arrêt ?
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l'obligation pour l'employeur de justifier qu'il a effectivement mis le salarié en mesure d'exercer ses congés payés constitue la pierre angulaire du dispositif issu de la directive du 4 novembre 2003. À ce titre, dans l'arrêt Frapport, la Cour de justice juge qu'il incombe au juge national de vérifier si l'employeur s'est acquitté, en temps utile, de ses obligations d'incitation et d'information quant à la prise des congés annuels. Ce n'est que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter cette obligation en raison de l'arrêt maladie sur plusieurs périodes de référent du salarié que la Cour de justice admet l'existence de circonstances spécifiques justifiant l'extinction des droits à congés, sans qu'il soit vérifié l'exécution de cette obligation d'information et d'incitation qui pèse sur l'employeur. Dans l'espèce soumise, la Cour d'appel avait constaté qu'à la suite d'un accident du travail, le salarié avait été placé en arrêt de travail. Elle a relevé que pour la période de référence de l'année considérée, le salarié disposait encore de jours de congé à prendre avant l'expiration du délai de report de 15 mois prévu par son statut. Elle a ajouté que ces congés, dont la prise avait été fixée, n'avaient pu être exercés du fait d'un nouvel arrêt de travail. En l'occurrence, à hauteur d'appel, l'employeur n'avait pas soutenu avoir, en temps utile, mis le salarié en mesure d'exercer ses droits à congés payés avant le terme du délai de report. La Cour d'appel avait constaté que le salarié n'avait pas eu la possibilité d'exercer effectivement ses droits en raison d'un nouvel arrêt de travail pour cause de maladie. Elle en a déduit, approuvé en cela par la Cour de cassation, que le salarié ne pouvait perdre ses droits au terme du délai de report et que l'employeur devait lui restituer les jours de congé dont il avait été privé.
Nous venons d'examiner la question des conditions de l'extinction des droits à congé payés. Mais qu'en est-il du droit au congé d'un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie, durant la période de congé annuel payé? L'arrêt de travail pour cause de maladie intervenu pendant la prise des congés payés justifie-t-il le report des congés payés correspondants?
Il y a lieu d'indiquer que la Cour de cassation jugeait de longue date que le salarié qui tombait malade au cours de ses congés payés ne pouvait exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard. La Cour de cassation a fait de nouveau application de la jurisprudence de la Cour de justice pour en décider autrement par un arrêt rendu le 10 septembre 2025. Elle a ainsi opéré un revirement de jurisprudence. Quelles sont les raisons de ce revirement ?
La Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de l'article L3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l'article 7, paragraphe 1 de la directive de 2003, que le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé impayés coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie. Comme nous l'avons dit précédemment, selon la jurisprudence de la Cour de justice, le droit au repos est défini comme le droit à une période de détente et de loisirs. Il ne peut pas y avoir en même temps deux congés avec des finalités différentes. Celle du droit au congé annuel, qui est de permettre aux salariés de se reposer et de bénéficier d'une période de détente et de loisirs, et celle du congé pour maladie, qui est de permettre aux travailleurs de se rétablir. De sorte que le salarié, qui devient malade durant ses congés payés, interrompt nécessairement ceux-ci dès lors qu'il est en arrêt de maladie et a droit à un report de ses congés payés non pris du fait de cet arrêt maladie. La Cour de cassation a opéré ce revirement de sa jurisprudence pour prendre en compte la jurisprudence de la Cour de justice. Elle a donc approuvé la Cour d'appel d'avoir retenu qu'une salariée qui avait fait l'objet durant ses périodes de congé payées d'arrêt de travail pour cause de maladie, qu'elle avait bien notifié à l'employeur, pouvait prétendre au report des jours de congé correspondants. Ceux-ci ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congé payé.
Examinons maintenant l'exercice du droit au congé. Nous avons rappelé précédemment que les salariés peuvent prétendre à des congés payés acquis lors de leur arrêt de travail pour maladie non professionnelle. En effet, les nouvelles dispositions de la loi de 2024, à caractère rétroactif, le permettent. Mais quelle est la limite de ces congés? Est-ce 24 jours ouvrables comme le prévoit la loi, ou bien davantage comme peuvent le prévoir les dispositions conventionnelles?
Un arrêt du 21 janvier 2026 apporte une réponse à cette question. Je laisse la parole à notre invité pour en parler.
Oui, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de la convention collective applicable, qui accordait 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilaient pas les périodes de congés pour maladie non professionnelle à du temps de travail effectif. Elle n'était pas plus favorable que les dispositions du Code du travail qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de 2 jours ouvrables par mois dans la limite d'une attribution à ce titre de 24 jours ouvrables par période de référence. Il s'agissait donc d'appliquer les dispositions légales en l'absence de dispositions conventionnelles expressément plus favorables.
Un autre arrêt rendu à la même date a permis de répondre à la question du calcul des congés payés auxquels donnent droit les arrêts de travail pour maladie non professionnelle. Nous venons de voir que la loi de 2024 permet l'acquisition rétroactive de jours de congés payés supplémentaires au titre des arrêts de travail pour maladie non professionnelle dans la limite de 24 jours ouvrables pour chaque période de référence après prise en compte des jours déjà acquis. Mais peut-on prendre en compte des jours de congés de périodes antérieures qui auraient été reportés ?
Non, Laurence. La Cour de cassation a jugé qu'il résout des dispositions transitoires de la loi du 22 avril 2024 qui ont pour objet de limiter l'acquisition rétroactive de droits à congés payés pour les périodes de maladie non professionnelles à 24 jours ouvrables, que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des 24 jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise. La limite de 24 jours ouvrables posée à l'acquisition rétroactive de jours de congés payés par la loi, s'apprécie période de référence par période de référence. Et cet arrêt a permis de préciser que, pour les situations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi de 2024, un salarié ne peut demander de rappel d'indemnité de congés payés au titre des arrêts maladie d'origine non professionnelle qu'à la condition de n'avoir pas déjà acquis, pendant la période de référence incluant l'arrêt de maladie, 24 jours ouvrables de congés payés.
Si l'on veut résumer, pour le calcul des congés payés auxquels donnent désormais droit les arrêts pour maladie non professionnelle, il faut donc faire une appréciation période de référence par période de référence et rechercher si, sur chaque période de référence, la limite de 24 jours ouvrables est ou non atteinte.
Et s'agissant de l'indemnité de congés payés, il convient de rappeler qu'un troisième arrêt du 13 septembre 2023, que nous avons analysé dans le précédent podcast consacré aux congés payés, a été l'occasion de rappeler un principe de calcul de l'indemnité due.
Oui, Laurence, cet arrêt a rappelé que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire, si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Nous venons d'examiner les droits du salarié. Mais quelle est la sanction du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de congés payés ? Le seul constat du non-respect par l'employeur du droit au congé payé du salarié ouvre-t-il droit à réparation ? Le salarié peut-il alors se prévaloir d'un préjudice nécessaire ?
L'arrêt du 11 mars 2025 répond à ces questions. Dans cette affaire, la salariée, gardienne d'immeuble, sollicitait des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, soutenant qu'elle n'avait pas pu s'absenter et prendre des congés annuels. La Cour de cassation a rappelé qu'eu égard à la finalité qu'assigne au congé payé annuel la directive de 2003, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Elle a ajouté qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation, les droits à congés payés sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation, il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait. En effet, les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en lien avec le droit au congé payé du salarié, ne sont pas le seul moyen d'assurer l'effectivité de la règle qui est transgressée par l'employeur. La Cour de cassation a donc prouvé la Cour d'appel d'avoir estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant du défaut de prise des congés payés. Il lui appartenait d'établir l'existence d'un préjudice.
Nous voyons bien, au travers des arrêts que nous venons d'évoquer, que le droit de l'union irrigue amplement la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de congés payés.
C'est la fin de notre podcast. Les arrêts publiés que nous avons évoqués peuvent être trouvés sur le site de la Cour de cassation ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans ce podcast thématique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci, Monsieur le Président. Merci, Géraldine.
À bientôt, Laurence.